Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans ce quatrième podcast, toujours 100% rétro gaming évidemment, avec le thème pour aujourd'hui les collectionneurs de consoles rétro, les collectionneurs ou les collectionneuses, si ça se trouve il y en a. Ce podcast sera divisé en deux parties, donc la première partie des collectionneurs de consoles rétro et la deuxième, on fera un petit point avec mes invités et je dirais même plus mes collaborateurs sur la 7e saison de Rétrovision. Je sais que vous vous posez pas mal de questions à savoir est-ce qu'il va y avoir une 7e saison. Alors si vous restez jusqu'au bout de ce podcast, vous serez récompensé car vous aurez la réponse. Je vous présente tout de suite mes deux invités. À ma gauche, nous avons Julien et à ma droite, Monsieur B, deux grands collectionneurs de... collectionneurs, c'est un petit mot, de consoles rétro. Salut à vous deux.
Salut Robin, salut à tous les auditeurs.
Alors moi, ma première question, évidemment, ça va sûrement être des questions récurrentes qu'on vous a déjà posées plein de fois, mais pour tous les gens qui nous écoutent, alors depuis combien de temps est-ce que vous collectionnez? Je vais commencer par Julien.
Alors, c'est difficile à te répondre dans le sens où, si je préfère, il y a beaucoup de consoles, on s'en est jamais séparé en fait.
Ok.
Donc, si tu parles du concept vraiment chercher des consoles pour vraiment les entasser et les collectionner, je dirais 2002-2003.
2002-2003, est-ce que ça correspond un petit peu à la période, les balbutiements du rétro gaming, où on commençait à parler de rétro gaming ou c'est...
Bah en fait, j'avais déjà, je préfère une collection déjà pas imposante, j'avais quoi, une quinzaine de machines, mais il y avait la possibilité de faire des brocantes, des choses comme ça, et on tombait sur des pièces de plus en plus intéressantes, okay, voire rares, et puis, tu sais, c'est comme un jeu, hein, t'en achètes une, t'en achètes deux, puis après, t'as envie, tu continues quoi.
Tu veux tout avoir après. Et pour Monsieur B?
Moi, c'est à peu près la même chose. Toutes les consoles que j'ai eues, je les ai toujours gardées. Mis à part ma toute première console qui était une Game Boy qui est malheureusement morte. Mm-hmm. Mais à chaque fois que je récupérais une nouvelle machine, je l'ai toujours gardée. Donc, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un moment où j'ai commencé la collection. Mais c'est vrai que c'est à partir de... au début des années 2000, quand tu commences à avoir un boulot, un peu d'argent, tu peux commencer à investir là-dedans. Mmh. Dès que tu as la possibilité d'avoir une console, tu te fais plaisir. Donc, il y a vraiment toutes les machines dont tu rêves, tu commences à les récupérer. Et puis, tu t'intéresses un peu au sujet, tu découvres de nouvelles machines et quand tu as la possibilité de pouvoir les acheter, tu te fais plaisir. Donc là, c'est vraiment oui, depuis je dirais une douzaine d'années que je suis en quête de récupérer le plus de machines possible.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'au début des années 2000, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des collections qui se défaisaient, entre guillemets, des gens qui commençaient à vendre leur console en se disant « Bon, regarde ça, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais la revendre 20€ au marché aux puces. » Est-ce que vous pensez que là, c'était à cette époque-là qu'on commençait à trouver des choses intéressantes?
Non, à mon avis, c'était sûrement bien avant. Tu sais, par exemple, déjà en 97-98, à l'époque où justement la PlayStation a battu son plein, tout ça, que les gens commençaient déjà à se séparer des vieilles machines sur les brocantes. Sauf que nous, à l'époque, on était encore au lycée et c'est pas évident de se payer des consoles, même sur une brocante où la console va être à 50 ou 100 francs. Si t'achètes plusieurs consoles, forcément, t'auras plus d'argent. Donc, mais je pense que c'était bien avant les années 2000 qu'il fallait s'intéresser à...
Non, vraiment, c'était les toutes premières années où les brocantes commençaient à se démocratiser en France.
Voilà.
Où là, les gens ressortaient vraiment toutes leurs vieilles machines du grenier ou celles qui n'utilisaient plus. Donc là, c'était vraiment les bonnes années. On pouvait vraiment faire des découvertes incroyables et se faire une belle collection pour, je dirais, assez peu de frais comparé à aujourd'hui.
D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu justement de votre collection, parce que si je vous ai invité, ce n'est pas pour rien. Julien, par exemple, combien as-tu de machines à peu près?
Alors, sans les doublons, en comptant les machines LCD, donc tu sais, les jeux électroniques,
les
ordinateurs. Voilà, les Game Watch. Non, j'en ai plus de Game Watch. C'est les Tiger, bon, enfin bref, les LCD d'une manière générale. Les consoles, les ordi sans les doublons, je suis à 191 machines.
Et pour Monsieur B?
Alors, moi, d'après le dernier décompte, je dois être aux alentours de 160 machines. Et si on ajoute les doublons, je suis pas loin des 190.
Ok.
Et ça, c'est sans compter tout ce qui est jeux électroniques, donc LCD, où là, je pense arriver aux alentours de 200.
Bon, ok. Alors, je suppose que vous avez un sous-sol. Où est-ce que vous mettez ça?
Alors, pour ma part, pour l'instant, c'est juste une pièce de 12 mètres carrés, mais qui va bientôt déménager dans une pièce de 35.
Oui.
C'est déjà pas mal.
Oui. Ça prend de la place, j'imagine. 190 machines, c'est énorme.
Bah en fait, je préfère, elles sont toutes entassées. Là, on est dans la salle de jeu en l'occurrence, et tout est entassé, donc c'est vraiment pas agréable à regarder. Et puis ça me fait mal au cœur.
Ouais, faudrait un musée pour exposer tout ça.
Oui,
un peu comme fait MO5, que je salue au passage.
Oui, qu'on connaît bien aussi, pas de problème.
Voilà. Et pour, et pour Monsieur B, pour ranger toutes les machines
Je dirais que celle dont j'utilise le plus, c'est vraiment tassée dans les étagères. Vu que j'ai pas mal quand même de machines en boîte, sinon la plupart c'est vraiment rangé dans des cartons un peu entassés façon Tetris.
D'accord.
Et espérant pouvoir un jour faire vraiment une salle de jeu dédiée, là où je pourrais vraiment ranger ça sur des étagères.
Ouais, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui font ça, justement, qui ont une belle collection, que ce soit en arcade, flipper ou des machines, puis qui se font carrément des salles de jeu. Et je pense que ça devient à la portée de tout le monde, pour peu qu'on sache un petit peu bricoler pour ce qui concerne les flippers et l'arcade. Mais je pense que ça devient vraiment à la mode de faire une salle de jeu avec. Tu invites tes amis, puis tu leur fais voir ta collection, puis ils passent un bon moment plutôt que de rester devant la télé. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et sinon, j'avais une autre question pour vous avant la première pause. Quelle raison vous pousse à collectionner ? Est-ce que c'est de la nostalgie ? Est-ce que c'est le fait d'avoir le plus de machines possible ? Quelles sont les raisons ?
C'est un peu des deux en fait. Bon, c'est sûr qu'il y a le gros côté nostalgie. Parce que par ce biais, on essaie quand même de retrouver un peu la magie d'une époque qui est maintenant révolue. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se dit à l'époque des années 90. Vu la quantité de machines qui étaient sorties dans le commerce, par rapport à nous, en Europe, comparé au reste du monde, on n'a pas eu grand-chose. Mmh. À part les consoles les plus courantes, donc il y a pas mal de machines qui étaient sorties à l'époque qu'on ne connaissait pas du tout. Et il y a toujours aussi un peu ce côté découverte qui est intéressant, d'avoir des machines que peu de gens connaissent au final.
Ouais.
Et moi, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse, le fait d'avoir pas mal de machines que je ne connais pas, de les découvrir de cette manière.
D'accord. Et pour Julien ?
Bah, moi, en fait, je te dirais qu'à l'origine, j'ai commencé par nostalgie, récupérer des machines qu'on m'avait prêtées ou que des amis avaient à l'époque, tout ça. Et au fur et à mesure, c'est plus un jeu, tu vois. C'est tiens, il m'en manque une, tiens, il faut que j'ai celle-là, tiens, celle-ci, elle est rare, il me la faut. Et en fait, maintenant, c'est plus un jeu que par nostalgie, parce que je peux pas dire nostalgie, c'est des consoles, certes, que j'ai vues dans les magazines, mais que j'ai jamais vraiment ni joué ni touché. Donc là, c'est plus vraiment, c'est plus un jeu. Maintenant, je veux parce que je veux posséder quoi.
Ok, ça reste un jeu, mais pas une obsession. C'est pas parce que demain tu vas avoir une machine que tu n'as pas, mais qui est hors de prix, que tu vas forcément t'endetter pour l'avoir.
Non, parce que j'ai d'autres passions qui sont un peu plus onéreuses. Et en fait, on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pas possible.
D'accord. Ok, super. Bah, juste après la pause musicale, on va parler des questions un petit peu plus techniques et plus pertinentes. Au lieu de vous sélectionner une musique de jeu vidéo comme je fais d'habitude, j'ai préféré vous mettre quelque chose que vous n'avez jamais entendu qui pourrait vous intéresser. Il s'agit du générique d'ouverture de Retrovision dans un remix qui a été fait par Kawai Kuma, à qui je fais un grand bonjour. Vous allez voir, on dirait presque du Vladimir Kosma. À tout seigneur, tout honneur, voici Kawai Kuma avec l'intro du générique de Retrovision remixé. Voilà, c'était le remix de Kawaii Kuma, générique de Rétrovision. Alors, on reprend notre podcast sur les collectionneurs avec des questions un petit peu plus pertinentes. À Julien et à Monsieur B, quelles sont vos plus belles pièces? Faites-nous rêver.
La Super Akan.
La Super Akan, c'est une machine que nous avons déjà présentée dans un Rétrovision, ça, il me semble.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ça, c'est une machine qui est, comme elle n'est pas sortie dans, elle est sortie que sur un territoire et pas dans le reste du monde, c'est une pièce qui est très 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 rare.
D'accord, et d'accord, et pour Monsieur B,
moi j'aime pas ce genre de questions parce que c'est toujours difficile de répondre.
Bon, celle dont tu es le plus fier alors.
Bah, ça change pas grand chose en fait. C'est vrai que la Super Akan, c'est quand même une sacrée pièce, d'autant que moi, comparé à Julien, je l'emboîte.
Ok.
Mais sinon, il y a des tas de machines qui sont quand même très très difficiles à choper, qui sont quand même assez énormes, comme la Pipine, comme le Laser Active, et toutes ces machines qui étaient vraiment des machines de luxe au Japon. Donc là, en sortir une par rapport aux autres.
Ouais. Mais écoute, j'ai entendu parler d'une certaine 3DO M2, non ?
Oui, effectivement. la FZ35. Effectivement, c'est une belle pièce, mais bon, faut quand même préciser que la FZ35, c'est pas la M2 telle qu'on l'a présentée à l'époque. C'est pas la console, la version console. Là, c'est la machine version plateforme multimédia qui a été commercialisée au niveau des entreprises.
D'accord, mais là, on parle pas de prototype. Là.
Voilà, c'est pas un prototype, hein, mais effectivement, oui, c'est une pièce assez intéressante. Autre pièce aussi que j'aime bien, c'est la Famicom Box.
Ok.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Famicom Box, c'est une Famicom un peu, enfin, Super Famicom un peu spéciale, vu qu'elle était disponible uniquement dans les hôtels.
Ok.
Avec 5 jeux intégrés.
D'accord.
Des jeux format spécial, hein. C'est pas comme les vraies cartouches de la Famicom. Et en fait, on pouvait jouer dans les hôtels avec ces jeux-là. Donc, le modèle le plus courant, il y avait des jeux comme Super Mario Kart, Super Mario All-Star, Star Fox. Mm-hmm. Et enfin, dans ma version, il y a en plus un jeu de Shanghai et un jeu de golf. Mais il existe aussi des versions avec Super Donkey Kong, donc la version japonaise de Donkey Kong Country. D'accord. Et ça existait aussi bien avant. Il y avait un modèle avec la Famicom et SNK aussi avait fait une version dans le même genre avec la Neo Geo.
Ok.
Ça, ce sont des machines encore plus rares, donc limite le vrai Graal.
D'accord.
Ces deux-là, ouais, je dirais que ces deux-là sortent du lot.
Ok. Et sinon, est-ce que vous avez des difficultés pour obtenir certaines machines?
Oui.
Oui, bah déjà la disponibilité, parce qu'il y a des machines qui sont quasiment introuvables.
Ok.
Et le peu qu'on en trouve, le prix est quand même assez hallucinant.
D'accord, t'as un exemple à nous donner ou...
Deux exemples assez probants. On peut déjà citer la RDI Halcyon, qui est une machine qui est sortie au début des années 80 et quasiment introuvable. Moi, depuis que je connais cette machine-là, je ne l'ai jamais vue en vente.
D'accord.
Et d'autres machines, moi j'ai pas de modèle en tête, mais qu'on trouve, que les gens vendent limite dans les 2000-3000 euros. C'est facilement un laser active en état de marche en boîte, c'est 1000 euros minimum.
Ah ouais, quand même. Alors j'avais une autre question aussi pour vous, c'est comment vous faites l'acquisition de pièces en Corée ou à Taïwan?
Je vais laisser Monsieur B répondre dans le sens où en fait toutes ces pièces-là, je passe par lui pour les récupérer.
D'accord, mais alors, comment fait-il? Est-ce qu'il a des contacts en Corée du Nord? Enfin, je veux dire, en Corée,
en Corée
du
Nord. Je connais personnellement Kim Jong-un. C'est un bon pote.
Attention, on risque d'être espionné.
Ah oui, ouais, là, ça c'est bon. Là. Prisme, on est en plein dedans. Voilà, pour ça, en fait, oui, il faut obligatoirement passer par l'intermédiaire.
D'accord.
Donc, c'est après les intermédiaires, c'est pas toujours évident d'en trouver. Pour le Japon, ça, inutile de chercher, il y en a des dizaines et des dizaines.
Ok.
À Taïwan, c'est plus difficile. Moi, je n'en avais pas personnellement. Je suis passé par un ami qui avait un intermédiaire, mais qui maintenant ne fait plus ce genre de transaction.
Ok.
Et pour la Corée, c'est pareil. J'avais un contact, mais qui apparemment ne fait plus ça. Donc, c'est devenu assez difficile. Mais la seule façon d'avoir des pièces dans ces pays qui sont encore assez peu ouverts à l'international, c'est vraiment de passer par une personne qui est dans la place ou qui a des contacts dans la place.
Ah d'accord, donc c'est vraiment, c'est, je dirais pas que c'est du trafic là, mais c'est quand même, faut avoir ses revendeurs, c'est quand même structuré comme.
C'est pas vraiment des revendeurs, disons qu'on passe toujours par le réseau classique des sites d'enchères locaux.
Ok.
Mais il faut toujours avoir quelqu'un qui soit sur place pour pouvoir réceptionner les objets, faire directement le contact avec les vendeurs pour après les renvoyer vers l'Occident.
D'accord, ok, je comprends très bien. Votre plus beau souvenir de machine, ordi et console confondus, c'est quoi pour vous vos plus beaux souvenirs?
Alors, tu sais, en fait, c'est assez compliqué à te répondre dans le sens où ça dépend des périodes.
Okay.
Quand t'es très jeune, tu vois, moi j'ai commencé, j'avais l'Atari 2600, j'ai des très bons souvenirs sur l'Atari 2600. Mm-hmm. J'ai eu différentes consoles, mais elles m'ont laissé pas un moins bon souvenir, mais c'était différent. Tu vois, après c'était l'Atari ST qui m'a laissé un gros souvenir. Ah, la Neo Geo, oui. La Neo Geo m'a marqué pendant le collège, la fin du collège et le lycée, parce que justement c'était jusqu'au lycée qu'avec Monsieur B on s'éclatait encore à la Neo Geo, tu vois. Donc
ouais, je me souviens la révision du BEP sur Viewpoint.
Voilà.
Ah oui.
Donc gros souvenir sur ces machines là. Après la Super Nintendo, j'ai aussi de très bons souvenirs, autant que la Game Boy, la Game Gear.
D'accord. C'est... Ok, ouais. Et pour Monsieur B?
Ben oui, c'est définitivement la Super Nintendo qui m'aura laissé le meilleur souvenir, parce que je trouvais que les jeux avaient quand même une ambiance assez particulière. Et même les jeux les moins bons avaient toujours un certain charme. Mmh. Et c'est toujours agréable, même plus de 20 ans après, d'y rejouer. Je prends toujours un réel plaisir. Et sinon, il y a deux consoles qui étaient assez, enfin pas vraiment grand public à l'époque, j'avais la chance d'avoir, c'était la PC Engine.
Ah oui.
Où j'avais quand même la chance, aux alentours des années 93-94, de pouvoir jouer au fameux Dracula X.
Okay.
Donc beaucoup d'amateurs de Castlevania ne connaissaient même pas l'épisode à l'époque, moi je l'avais déjà torché.
D'accord.
Et sinon j'avais aussi eu la possibilité, c'était en 96, d'avoir le Neo Geo CD.
Ouais, donc, je confirme, c'est moi qui lui ai vendu.
Ouais, il y a le dealer juste à côté. ouais, je pouvais au moins tâter un peu de l'arcade à l'époque, bon, même si c'était pas en cartouche, hein. Je sais que beaucoup de gens râlent sur cette console par rapport au temps de chargement. Je trouve franchement que c'est un argument totalement puéril.
D'accord.
C'est soit on claque 1 500 € pour un jeu, soit on paye le jeu à prix normal et on endure quoi, 10 secondes de chargement. C'est franchement ridicule, mais bon.
C'est pour ça que je demande.
C'est la qualité est la même.
D'accord. Sinon, j'avais une question un petit peu plus personnelle aussi. Est-ce que là, je vous entends parler, puis je vois que Julien a eu la Neo Geo, Monsieur B, la PC Engine. Est-ce que le fait d'avoir des consoles qui n'étaient pas forcément super populaires en Europe, est-ce que c'était pas prédestiné de faire de vous des collectionneurs peut-être 10-15 ans après?
Ouh.
Je pense que ça a pas mal joué,
oui.
Parce que je sais que la PC Engine, déjà, qui n'était pas officiellement distribuée en France,
oui.
Où là, c'était directement, fallait aller à Paris pour acheter de nouveaux jeux. Ça a un peu aiguisé ma curiosité de tous ces jeux qu'on ne voyait pas dans les magasins, qui étaient un peu rares, des styles quand même assez particuliers,
oui.
Comme les fameux Digital Comics de la PC Engine.
Exactement.
Un genre qu'on ne voyait pas du tout, et c'est vrai que ça me poussait un peu à découvrir toutes ces machines qu'on ne laissait pas pour voir comment c'était fait, est-ce qu'il n'y avait pas des jeux qui étaient bien spécifiques à chaque type de console. Et c'est vraiment ce côté-là, moi, qui prime sur la collection.
D'accord. Est-ce que vous avez l'intention d'acheter d'autres machines encore, ou vous allez vous arrêter au bout d'un moment?
Bah quand on sera mort.
D'accord. Ok.
À moins que.
Ou si c'est la banqueroute, mais bon, tant qu'il y a des machines intéressantes à bon prix qu'on pourra trouver qui ne sont pas de la collection.
Bah, y a un moment, de toute façon, faut être honnête aussi. On va là, tu vois, je sais pas si tu vois, tu fais le calcul. On va dire quasiment 200 machines. On va dire qu'il en reste une centaine qui est encore trouvable. Que tu mettes les moyens ou pas, hein, je parle, hein, d'une manière générale.
Ouais, ouais.
Après, il y a des machines que, comme nous, par exemple, on cherche, qu'on sait qu'on ne reverra peut-être jamais en vente, c'est la Halcyon, la RDI de Halcyon.
D'accord.
Non, c'est l'inverse. La Halcyon de RDI, ouais. Ça, par contre, tu vois, c'est une machine, bon, bah, c'est. Même chez Mo5, la première fois qu'on est allé chez Mo5, on leur a demandé ça, ils nous ont regardé avec des yeux, je sais pas, ils faisaient au moins 8 cm de diamètre, les yeux, tu vois.
Okay.
Ils savaient même pas ce que c'était, donc. Ça, c'est des machines, on sait que de toute façon, ça sert à rien qu'on lutte, on ne la retrouvera pas. Voilà.
Bon, d'accord. Donc, il y a quand même une limite.
Oui.
À moins de braquer un autre collectionneur, mais.
brillait encore à son. J'en ai jamais vu dans. Il y a personne en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un citer, même aux États-Unis, parce qu'il y a des grosses collections. Je regarde un petit peu des fois et il ne la montre pas, il ne la présente pas, il n'en parle même pas. Donc
peut-être qu'ils la connaissent, mais vraiment des personnes qui en possèdent une, non.
Ils sont pas nombreux, non.
D'accord. Bon. Eh ben très bien. Ben ça fait plaisir de parler avec des professionnels. Là, on apprend plein de choses. Et on va faire une petite pause musicale. On va écouter encore une fois quelque chose que vous n'avez presque jamais entendu. En tout cas, pas dans son intégralité, puisqu'il s'agit du générique d'ouverture, celui que vous avez l'habitude d'entendre. Sauf que cette fois-ci, je vous le joue en intégralité, et c'est toujours signé Kawai Kuma. Et voici le moment que vous attendez tous, comme dirait Jackie dans le Jackie Show. Vous allez savoir enfin s'il va y avoir une 7e saison de Rétrovision. Alors oui ou non, je ne laisse plus durer le suspense. Voici la réponse. Roulement de tambour. La réponse est oui, Jackie Tube d'or, il va bien y avoir une 7e saison de Rétrovision, mais par contre ce ne sera plus les émissions classiques. Adieu les démos Amiga, adieu les tests variés, parce que j'ai plus le temps. Par contre, il va quand même y avoir une émission spéciale qui va être consacrée à une machine, et on présentera quelques jeux et logiciels sur cette machine grâce à deux personnes. Ces deux personnes, elles sont en face de moi, à ma gauche Julien, à ma droite Monsieur B. Et c'est grâce à leur contribution, grâce à leur travail et à leur collection que Rétrovision va pouvoir continuer pour une 7e saison. Alors un grand merci à eux, et je vais leur laisser la parole, puis qu'ils nous racontent un petit peu comment ça va se procéder cette émission.
Bah écoute, dans le principe, je pense qu'on va garder les grandes lignes que tu as déjà instaurées.
D'accord.
On va toujours faire des tests toujours aussi éclectiques que les tiens. Ensuite, il y aura toujours un dossier machine. Ensuite, pour les émissions spéciales, on verra comment ça va se passer. Ça sera soit sur des machines, sur des thèmes.
Je pense qu'on va sortir un peu du contexte qui a été abordé jusque-là et essayer de traiter des thèmes un peu plus généralistes, comme justement tu parlais de la Corée du Sud. C'est vrai que ce marché-là avait quand même une histoire au niveau des jeux vidéo qui est assez intéressante, bien que les sources soient quand même assez peu nombreuses. Mais je pense qu'il y aurait facilement de quoi de faire une émission là-dessus. Mm-hmm. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur les consoles, comment elles ont été nommées, la manière dont ça a été distribué là-haut.
D'accord.
Et on pourra aussi refaire des émissions spéciales sur les consoles, mais là en allant peut-être un peu plus sur le plan technique.
D'accord.
Parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était assez survolé, donc là c'est vraiment plus rentré dans les détails. Et sinon, oui, au niveau des jeux, toujours autant d'éclectisme, voire même un peu plus. Parce qu'on a remarqué quand même qu'il y a souvent les mêmes machines qui revenaient dans tes émissions. Tu avais tes machines de prédilection, et bon, on va essayer de justement sortir un peu ça et de prendre des machines plus. Enfin, du moins un spectre plus large.
Voilà, des choses que vous ne verrez jamais en temps normal. Donc oui, c'est vrai que j'ai tendance à mettre l'Atari ST Amiga pour les micros, PC, et puis les consoles, bon, qu'on a plus ou moins connues, mais bon, à la limite, je te dirais le plus obscur où je suis allé, ce serait peut-être l'Action Max avec la PC Engine, mais encore là, bon, tout le monde connaît. Alors, c'est sûr que je pouvais pas parler non plus, vu que je suis tout seul, de choses plus pointues, mais maintenant que vous êtes là, ça va pouvoir se faire. Alors donc, je résume un petit peu ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir des émissions un peu comme ce que fait MO5, que je resalue encore une fois, avec leur émission Very Hard qui est sur nos lives. C'est-à-dire que vous voyez une machine, ils vous expliquent techniquement comment elle fonctionne, son historique. Et puis, on mettra derrière, juste après, on essaiera quelques jeux pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. En fait, on ne vous fera pas juste vous présenter la machine. Vous verrez certains jeux que nous allons tester assez rapidement. Hein. Ce ne sera pas des tests de 3-4 minutes comme je faisais avant. Ce sera vraiment très rapide. Et puis sinon, il y aura toujours les hors-séries. Comme je disais, donc Monsieur B nous parlait de la Corée du Sud. Bah, pourquoi pas faire un hors-série là-dessus. Julien m'a parlé de l'Atari ST. Pourquoi pas refaire, même si ça a déjà été fait, c'est tellement de choses, un hors-série sur l'Atari ST avec des tests de jeux carrément. Là, on reprendrait les tests. Mais bon, l'hors-série, ce sera de façon très sporadique, mais ce sera essentiellement la ligne conductrice, ce sera la présentation des machines avec Monsieur B et Julien. Voilà, donc est-ce que vous avez encore des petites choses à dire, des salutations ou pour conclure, je vous laisse la parole.
Bah écoute, tu as parlé de Viriard, donc je salue Douglas.
D'accord.
On a eu quand même la chance de rencontrer et de discuter.
Qui est très sympathique. Et puis, d'une manière générale, toute l'équipe d'Emo 5, Philippe Dubois inclus.
D'accord.
Bon, juste pour reparler des détails sur les machines, bon. Tu faisais le parallèle avec Veriard. Veriard, c'est plutôt une émission où il parle vraiment du comportement des composants de certaines machines. On n'ira pas jusque-là.
D'accord.
Mais non, c'est plus pour reprendre le principe de parler vraiment de l'historique de la machine, des spécificités. Donc, on ne va pas non plus, quand tu dis plus technique, c'est parler un peu plus de la machine en elle-même, pas vraiment aller au cœur de la machine.
Ouais. Puis de là, montrer les composants comme ils le font en démontant, non. Non.
Mais je parlais de l'esprit un petit peu, tu vois, de l'esprit, peut-être pas vraiment du contenu, mais de l'esprit, la manière dont c'est présenté un petit peu. Donc, parce que vous avez les machines en vrai, donc on va pouvoir les voir vraiment. Ce sera pas des images prises, des photos prises sur Internet, ce sera vraiment des extraits des qui seront prises de votre collection personnelle.
Exactement.
Ouais, c'est clair.
Voilà, donc je pense que ça ajoute quand même un peu plus d'intérêt. Et puis, voilà, moi, pour ma part, ce podcast est terminé. On espère que ça vous a plu. Un peu plus court que d'habitude, mais bon, court, mais bien. Et puis, on se retrouve donc à la rentrée pour la 7e saison. Donc, on va mettre ça en place pendant les grandes vacances. Et puis, on se retrouve en septembre. Un grand merci à Julien, qui est toujours à ma gauche, et à Monsieur B à ma droite. Et encore merci à eux, parce que c'est grâce à eux qu'il va y avoir une 7e saison. Et puis on se donne rendez-vous à très bientôt sur Rétrovision. Salut à tout le monde.
Salut Urbain.